Bien, on était à l'intronisation du roi Shaoul, du roi Saül. Hein, je reprends. Voilà, je passe des photocopies. Est-ce que vous avez les photocopies la dernière fois? Ce qui redouble. Voilà. Alors, comme quand même plusieurs semaines sont passées, je vais reprendre ce que nous faisions et on va se remettre dans le sujet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Résumé des chapitres précédents. Il paraît que les séries, c'est très à la mode. Voilà, c'est la série. Voilà, première saison. Shmuel. Shmuel, première saison. Donc, le point, c'est le suivant. Le prophète Shmuel. Je résume. Nous en sommes au chapitre Yud, chapitre 10. De quoi s'agit-il? Le prophète Shmuel oint Shaoul dans la stricte intimité. C'est-à-dire que entre quatre yeux, il lui met de l'huile sur le front et le nomme roi. Le nomme roi. Et il lui dit, voilà, tu vas partir de notre rencontre et tu vas aller à tel endroit, ensuite tel endroit. Voilà. Et voilà qu'est-ce qui va se passer. Bien. Ensuite, Shmuel va mobiliser tout le peuple juif pour se retrouver à Mitzpah, où il va dévoiler à l'ensemble du peuple juif, en présence du peuple juif, qui va être le premier roi, le roi du peuple juif. Il faut savoir que depuis la sortie d'Égypte, il n'y a encore pas eu un seul roi. Depuis la sortie d'Égypte, le peuple juif, disons, je vais dire un mot anachronique, s'autogère, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Mais il n'y a pas d'instance centrale, de gouvernement central. Il n'y a, pas. Voilà. C'est quand même remarquable, puisque ça fait grosso modo 450 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Quand même, ce n'est pas 50 ans, 450 ans. Bien. Ok. Donc il va y avoir le dévoilement qui va être le roi du peuple juif. Événement super historique. Imaginez, nous allons tous vibrer dimanche soir. Qui va passer au premier tour? Or là, des présidents, il y en a déjà eu, mais là, ça va être le ça va être, il n'y en a jamais eu, il n'y en a jamais eu, donc c'est vraiment l'événement des événements. Ok. Ce étant, nous allons prendre chapitre Yud. Alors, pour les personnes qui étaient là la dernière fois, on redit un petit peu. Hein. Bien. Ne m'en voulez pas, mais c'est nécessaire pour se remettre dans le sujet. Alors, dans le chemin, le lendemain matin, que, en toute intimité, le prophète a oint Shaoul, le lendemain matin, verset, voilà qu'est-ce qui va se passer. Verset Yud Dalet, chapitre Yud, verset Yud Dalet. C'est là. Vayomer Dod Shaoul Elav. Vayomer Dod Shaoul Elav. Vayomer Dod Shaoul Elav. Venaro. Analartem. Vayomer, le Vakesh est à Atonot. Vanire Kiaïn Vanavo El Shmuel. Vayomer Dod Shmuel. Shaoul. C'est quoi Dod? L'oncle. Oui. L'oncle de Shaoul lui dit. Donc en chemin, le lendemain matin, il rencontre son tonton. Donc l'oncle de Shaoul lui dit, Venaro ainsi qu'à son page, An alartem, où est-ce que vous étiez passé? Où est-ce que vous... An alartem, où êtes-vous allé? Vayomer, il dit, le Vakesh est à Atonot, recherchez les ânes. Vanire, Kiaïn, nous avons vu qu'elles ne sont pas là. Vanavo et Shmuel, et nous allâmes chez Shmuel, le prophète. Vayomer Dod Shaoul, Akidanali Mahamar Lachem Shmuel. L'oncle de Shaoul lui dit, raconte-moi, s'il te plaît, Agidana, na, c'est s'il te plaît. Agidanali, raconte-moi, s'il te plaît, Mahamar Lachem Shmuel. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit, le prophète? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Shmuel? Vayomer Shaoul El Dodo. Aged igid lanu kinim tseu a atonot. Fait devar amloucha lo igid lo asher amar Shmuel. Shaoul dit à son oncle, il nous a raconté que les ânes ont été retrouvés. Et le sujet de la royauté, il ne lui a pas dit. Que lui avait dit Shaoul? Shmuel, que lui avait dit Shmuel? Comment? Voilà, c'est extraordinaire ça. Ça veut dire, il a gagné le gros lot d'1 milliard de dollars. Ouais, il dit, on a retrouvé les ânes et j'ai gagné le gros lot. Il n'a pas dit. Ça c'est très significatif, très très significatif de la personnalité de Shaoul. Et nous avions relevé, justement, la dernière fois, que Esther, justement, nos maîtres relèvent que Esther est la juste descendante de Shaoul. C'était la descendante de Shaoul et qui avait cette qualité de discrétion et de ne pas dévoiler des choses très importantes, de ne pas dire des choses très importantes, des choses... Des choses très importantes, elle disait pas.
Le page était au courant.
Comment? Non. Le page n'était pas au courant. Mais ça, c'est... je ne sais pas. Je vais dire une bêtise. Mais bon, on se connaît, hein. Vous savez, j'aime bien dire des bêtises. Je ne sais pas, moi... Attention, je vais dire une bêtise, hein. Je préviens, après vous allez dire, ah, c'est une bêtise. Hier soir, Sarkozy vous a invité à manger en tête à tête. Vous allez le dire quand même. Eh, Et le président, il m'a invité pour taper la discute en disant ouais, t'as un conseil, comment je peux vivre là, ces moments un peu difficiles pour moi, je suis un peu en perturbation, parce que t'aurais, je sais que tu vas étudier le cours de Rav Zizek, peut-être que tu aurais quelques, je sais pas, un peu de sagesse pour me permettre d'intérioriser ce que je suis en train de vivre. Alors, je sais pas, tu vas dire à tout le monde, j'ai mangé, et puis il a commandé un repas cachère exprès pour moi. À l'Élysée, tu te rends compte. Mais là, c'est plus que ça. Il ne le dit pas. C'est Dieu, Dieu l'a nommé roi. Premier, il n'y a jamais eu un roi. Il ne dit pas. Ah, la madame, elle ne le dira pas.
Concernant Esther, c'est pas un peu stratégique qu'elle ne dise pas quelqu'un, sachant qu'il y a un antisémite plus que plusieurs. Je ne sais pas, c'est ça.
C'est vrai. C'est vrai, mais il y avait des pressions quand même. Il y avait des pressions. Et puis justement, elle aurait pu se faire valoir quand même dans le contexte. Justement, nos maîtres disent, comme elle était de lignée royale, elle aurait pu dire. Mais Assuérus n'était pas antisémite. Assuérus n'était pas. Il était neutre, rien de spécial. Enfin, il a quand même participé comme ça à l'élimination, mais pas spécialement antisémite. Les Chachamim relèvent que, vu le contexte, le fait de se taire n'était pas normal. N'était pas normal. Oui.
En fait, dans ce cas-là, tout d'un coup, on dit à Shaoul, tout d'un coup, Shmuel vient voir Shaoul et il dit, enfin, il vient pas le voir, mais il rencontre Shaoul et il dit, tu vas être roi. Shaoul ne s'attend pas du tout à ça. Il n'a jamais eu quelque ambition de ce genre-là. Je vois pas, enfin, il aurait plus peur qu'on prenne pour un fou s'il allait se mettre à raconter, vous savez quoi, je suis nouveau roi. Moi, je vois plus ça comme ça, comme de la pudeur, je veux bien, mais si tout d'un coup il avait décidé de ne pas être pudique et de dire, vous savez, je suis roi, ils auraient rigolé en face de lui. Il a été loin en privé, personne ne sait.
Personne ne le savait.
Quelque part, là aussi, c'est stratégique. Même si je pense que pour Esther, il y a plus de choses que ça qui montrent sa discrétion. Là, en l'occurrence, c'est stratégique. Il n'a aucun intérêt à dire tout de suite je suis roi.
C'était justement ça.
C'est-à-dire
justement, on va rigoler de lui.
Oui, mais est-ce que abaisser les autres, c'est accepter de se faire abaisser tout de suite pour que dans 3 jours, ben, ce soit eux qui soient abaissés?
Peut-être qu'il n'a pas réalisé, tout simplement.
Enfin, il n'y croyait pas. Shmuel, c'est le. Justement, on voit bien que. Je sais pas, le. C'est le rabbi de Lubavitch de l'époque, quoi. Quoi ? Un quart d'heure, t'as parlé avec le rabbi, alors qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ouais ? Ben, il m'a dit qu'on a retrouvé les ânes. Il m'a dit aussi que j'étais le Mashiach. Enfin, en passant, il m'a dit que j'étais le Mashiach. Bon, alors, vous dites, Rana, qu'on dit un peu le Shigene, quoi. Il travaille du chapeau, quoi, Shaoul. Oui, c'est vrai. Donc il fait profil bas, quoi. Alors on va voir la suite. On va voir la suite. Bon, alors pour ceux, excusez-moi encore, qui ont lu mon livre, vous verrez que c'est un des passages préférés que je préfère. C'est la suite, les quelques versets qui suivent. C'est verset Yudzein. Vayatzek Shmuel et Ta'am El Hashem Amitzpah. Shmuel mobilise le peuple vers Dieu à Mitzpah. Mitzpah, c'est un endroit près du Jourdain. C'est un endroit, je crois, qui se trouve encore près du Jourdain. Il y a un lieu dit Mitzpah. C'est un endroit plat, donc où ils peuvent recevoir des milliers de personnes. Vayomer El Ben Israël. Kouamar Hashem Eloke Israël. Anochi Eliti et Israël mi Mitzrayim vatsil etrem miyad Mitzrayim ou miyad kol amamlachot alochatsim etrem. Il dit aux enfants d'Israël, Kouamar Hashem Eloke Israël. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai sauvés de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui les oppressent. Ve'atem hayom ve'astem et Elokechem, asher moshia lachem mikol ra'otechem ve'tzarotechem, v'tomru lo, ki meler tassim alenu. V'ata itiatzfu lifnei Hashem leshiftechem ule'alfechem. Et vous avez exécré votre Dieu qui vous sauve de tous vos malheurs, de toutes vos oppressions, et vous lui avez dit, car un roi tu mettras sur nous. Bon, petite parenthèse, que nous avons déjà traité les premières fois que nous avons abordé ces chapitres, quelle était la faute des enfants d'Israël en demandant un roi ? Donc il y a deux démarches. La plupart des commentateurs disent ils ont demandé à un roi pour être comme tous les autres peuples, une normalisation. Et je vous avais rapporté que Avrabanel disait non, simplement nommer un roi, c'était une faute en tant que telle, qu'il n'y a pas de commandement de la Torah de nommer un roi, ce qui est le sens simple de ce verset. Hein. Voilà. Ve'ata itiasfu lifnei Hashem. Mais maintenant, tenez-vous droit devant l'Éternel en ordre, selon vos tribus et selon vos milliers. C'est-à-dire que le peuple juif, bien que nous ayons dit qu'il n'y avait pas d'instance centrale, il y avait malgré tout une organisation. Organisation en tribus, et à l'intérieur des tribus, il y avait des milliers. C'est-à-dire chaque millier avait des responsables. Il y avait chaque millier de juifs, je ne sais pas exactement comment c'était, il y avait des responsables par milliers. Selon vos tribus, selon vos milliers. Et maintenant, il va y avoir le tirage au sort. Qui va être le roi ? Vayakrem Shmuel et kol shifte Israël veilaket shevet Binyamin. Il a approché Shmuel, toutes les tribus d'Israël, et a été saisi la tribu de Binyamin. Rashi explique qu'il y avait une boîte. Dans la boîte, il mettait 12 cartons ou 12 morceaux de bois, sur laquelle il était écrit les noms des tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Il mettait les 12 tribus dans la boîte. Le premier roi du peuple d'Israël sera de la tribu Binyamin. Vive la tribu de Binyamin. Verset suivant. Vayakrev et Shemet Binyamin, les Mishpechotav, Vatilaket Mishpachat Amatri, Vailaket Shaul Ben Kish, Vayevak Shehu Velonimsa. Il a rapproché la tribu de Binyamin selon ses familles, c'est-à-dire dans la tribu de Binyamin était partagée en famille. Il y a la famille Intel, la famille Bidule, la famille Machin. Dans la tribu de Binyamin, il y a plusieurs familles. Je ne sais pas combien de familles. Donc chaque famille de la tribu de Binyamin, pareil, sur des morceaux de bois, il écrit, il met dans la caisse, il remue bien, ouais. Il approche la tribu de Binyamin selon ses familles et a été saisi la famille de Mater. la famille de Mater, le premier roi d'Israël, fait partie de la famille de Mater. Musique. Merci, merci, merci l'orchestre. On continue. Et maintenant, toutes les personnes de la famille de Mater, toutes les personnes, on remue. Vaïlaked, Shaoul ben Kish, est nommé le premier roi, Shaoul ben Kish, premier roi du peuple d'Israël. Veivakshu, Velonimsa, il recherche partout, il n'est pas là. Shaoul ben Kish est demandé sur le podium. Shaoul ben Kish est demandé, le premier roi d'Israël est nommé sur le podium. Des milliers de personnes. Des milliers de personnes. On le cherche partout. Est-ce que vous avez entendu où se trouve Shaoul? Vaishalou od Bashem. Ils ont demandé encore à Dieu. Abba od alom ish. Bon, ça, le dernier cours que nous avons fait ici, nous avons développé longuement sur ces mots. Je ne vais pas reprendre, je vais traduire, mais pas reprendre la thématique. Ils ont demandé à Dieu, c'est quoi? Ils ont demandé aux Urim Vetumim. Les Urim Vetumim, c'est-à-dire que le grand prêtre avait le pectoral, il y avait les 12 pierres précieuses gravées, et pour des questions centrales du peuple d'Israël, ils demandaient. Le prophète demandait au grand prêtre et ça s'allumait. Ils ont demandé. Mishalou od Bashem. Ils ont demandé encore à Dieu. Abba od alom ish. Est-ce qu'encore cet homme est là? Vayomer Hashem. Dieu répond. Iné ou nerba el akelim. Alors, qui c'est qui me traduit ça? Iné ou Nerba et la Kélim. Et toc. Nous.
Caché.
Oui. Caché, Nerba, c'est caché.
Et
la Kélim.
Les ustensiles.
Des ustensiles. Alors, voilà. C'est, alors, ça veut dire kelim. Kelim, c'est les objets, les ustensiles. Les ustensiles. Rachid dit. Il était caché au vestiaire. Il y avait un énorme vestiaire. Vous savez, les vestiaires, on met les numéros là. Donc, il y avait plein. Est caché là-bas où on met les valises, les kelim, les objets. Ça, c'est le sens premier. Il est caché dans les kelim. Voilà. Caché dans les kelim. Voilà. Verset suivant. Verset 4 guillemets. Vayarutsu vayekaru misham vayetsiatsev vetoraham vayigba mikolaham. Mishirmo, Vamala. Ils coururent, le prirent de là-bas. Il s'est dressé au milieu du peuple. Et il était plus haut que tout le peuple, en stature et en qualité. Ils ont tous vu que royal. Ils ont tous vu qu'il resplendissait de noblesse et de grandeur. Vayomer Shmuel el Kolaam, Aroitem Asher Bacharbo Hashem. Vous avez le texte là, c'est bon? Voilà. Vayomer Shmuel el Kolaam, Shmuel dit à tout le peuple, Aroitem Asher Bacharbo Hashem, avez-vous vu en qui Dieu a choisi, qui en kamo'u becholaam? Il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. Donc ça, si vous voulez, cette expression résume ce que nous faisons depuis moult semaines. Que Shaoul était celui sur lequel Dieu dit « Il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. » Alors ça, c'est intéressant. On sait pas qui est dans les bons papiers de Dieu. On ne sait pas, nous. On ne sait pas qui c'est dans les bons papiers de Dieu. On ne sait pas quels sont les critères que Dieu aime bien. Et ça, c'est important. On voit, on a vu, il est gentil. Et là, on voit, imaginons que dimanche soir, c'est Mélenchon qui fait le plus grand score. Ouais, alors, je sais pas, il va arriver, salut, ouais, on a gagné, ouais, salut, c'est nous. C'est le peuple qui a le pouvoir, ce n'est pas moi qui a le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Ouais, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Non, on peut imaginer. Alors, lui, il est nommé par Dieu. On le cherche partout où il est. On ne le trouve pas. C'est fou quand même, cette histoire. Parce que là maintenant, c'est la grande mise en scène, Hannah. Là maintenant.
Pourquoi il s'est caché ?
Comment ? Pourquoi il se cache ?
Je pense qu'on va y arriver, mais il y a une grande responsabilité. En plus, il le sait déjà, tout d'un coup, il joue les modestes, il fait semblant.
Non, mais il est. Moi, j'explique, il est très névrosé. Il est très névrosé. Il est pas à l'aise en public. Il aime pas qu'on le voit. Il est timide. Autrefois, on disait timide. Aujourd'hui, on dit névrosé. On dit, il est pas à l'aise, quoi. Il est pas à l'aise. Il ne sait pas comment se mettre. Les gens vont le voir. Mais je crois que c'est ça. Hein.
C'est un peu comme tout.
J'avoue que... Voilà, c'est... J'avoue que je n'ai pas suivi vraiment. J'ai vu les affiches, c'est tout. Hein. Je suis désolé. Bon, le genre. C'est... il est... Je crois que c'est ça. Il est vraiment... Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise en public. Il n'aime pas qu'on le voit. Que les gens le voient, c'est s'il ne veut pas qu'on le voit.
C'est le germe en lui de ce qui va mal tourner.
Non, ça c'est ce que Dieu considère que c'est bien. Non, justement, alors ouais. C'est ça.
C'est ça, on parle du même.
Comment ?
On parle du même Shaoul qui ensuite, qui d'ailleurs, 5 minutes après, est majestueux aux yeux de tous, et tout d'un coup on voit sa noblesse, alors que en fait il est mal à l'aise en public, il est maladroit, il n'est pas bien, et finalement tout le monde d'un coup se rend compte que...
Oui, parce qu'il a une aura divine. Il a la Shekhina et la présence divine qui le transcende. Mais lui, il est c'est ça ce que les Chachamim relèvent. C'est la tzniout, c'est le il supporte pas qu'on le voit, il supporte pas qu'on le mette en exergue, qu'on le mette devant. D'ailleurs, tout de suite, on va le voir. Je termine ce verset parce que c'est trop beau quand même. Alors il dit. Aruitem Asher Bacharbo Hashem, Kien Kameu Bechol Aham. Regardez celui en qui Dieu a choisi, car il n'y a pas comme lui dans tout le peuple. Vaya Riu Kolam, Vayomru Yochi Ameler. Je vous laisse traduire. Vaya Riu.
Il le peuple
vire. Non, ça déclare Aleph. C'est Aïn. C'est comme Teroua. Teroua. Teroua, c'est la soufflerie du chauffard. Ça s'appelle Teroua. Donc ils ont, je traduirais, ils ont, en français, en bon français, ils ont exulté. Ils s'exclamèrent. Bon, le français n'est pas assez... Trop mignon, le français. Ils éclatèrent, tout le peuple a éclaté. Vayomou, ils ont dit, Yochi Ameler.
Vive le roi.
Vive le roi, bah oui, vive le roi, quand même. Ils ont dit, vive le roi. Bien. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire qu'il était caché? Et on voit que les Rahamim relèvent que la qualité centrale de Shaoul, c'était sa tzniout. Et chaque fois dans la Torah que nous parlons de royauté, on parle de tzniout, on parle de pudeur. Alors la pudeur aujourd'hui, dans les milieux juifs religieux, on met énormément l'accent, comme un petit peu chez les musulmans, sur la longueur des manches, des jupes et de pas trop de décolleté. C'est juste, ça fait partie de notre tradition, c'est juste. Mais la pudeur, c'est pas que ça, si vous voulez. La pudeur, la tzniout, c'est une manière de se poser, de se vivre, et la tzniout, c'est-à-dire, justement, ici, on voit c'est la difficulté de se montrer. Pourquoi la Torah, quand elle... Justement, c'est le moment... Il est nommé de manière éloquente roi devant tout le monde. Le verset dit, il est caché dans les Kélim. Alors, cette thématique des Kélim est une thématique centrale. Alors, on va voir, on va essayer de développer, là, aujourd'hui, à la fin de la parashat Vaishlar. Fin de parashat Vaishlar, un passage bizarre dans la Torah. Prenez un chumash.
Passe un texte.
Alors, c'est dans Bereshit, dans la Genèse. Chapitre Lamed Vav. Bien. Alors. Donc, la parasha de Vaishlar, la thématique, le thème central de la parasha de Vaishlar, donc c'est dans cette édition... Page 61. Ok. Donc, Jacob était en Mésopotamie où il s'est marié avec Rachel, avec Léa. Il revient avec ses 11 fils. Puisque Benjamin, justement, n'est encore pas né, avec ses 11 fils en terre de Canaan. Mais le problème, c'est qu'il y a son frère Esav, Esaü, qui l'attend d'Ardar avec 400 hommes, comité d'accueil redoutable pour le tuer. Alors... Le thème de la parasha de Vaishlar, c'est cette rencontre à haut risque qui finalement vire à une rencontre amicale, exceptionnellement amicale. Ok. Mais Jacob en sort quand même boiteux dans cette histoire. Il sort boiteux. Bien. Parce qu'il s'était battu contre l'ange toute la nuit avant la rencontre avec son frère. Ok ? Et après cette rencontre, la Torah nous raconte qu'est-ce qui va advenir de Ésaü. Qu'est-ce qui va advenir de Ésaü ? Longuement. Longuement. Et il y a le chapitre Lamed Vav, verset 31. Et voilà, c'est un passage que je vais vous lire intégralement, Et vous verrez que c'est un passage bizarre et qui apparemment est inintéressant. Et j'aime bien les sujets inintéressants. Hein? Pourquoi faire un sujet intéressant quand on peut faire des sujets inintéressants, hein? N'est-ce pas? Alors, verset 31. Ve'ele amlachim asher malchu be'eretz edom nifle melor meler livne Israël. Voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom. Dans la terre de Édom. Édom est le surnom de Ésaü parce que... Comment ça se fait qu'on l'appelle Édom? Quoi?
Il était roux, et quand il est né, il était particulièrement rouge.
C'est vrai que c'est écrit qu'il était rougeau, mais la raison pour laquelle on l'appelle Édom, c'est que quand son frère Jacob avait le plat de lentilles, oui, Ésaü revenait de la chasse, il était épuisé, il avait faim, il a dit « Oh là là, c'est quoi ce rouge-là là? Ça a l'air sympa ce truc, tu me le refiles ?» Ouais. « C'est quoi ce rouge-là ?» Et le verset dit « On l'a appelé rouge parce qu'il a appelé rouge. » Voilà. Donc on l'appelle rouge. Le verset dit, c'est pour ça qu'on l'appelle rouge. C'est vrai qu'il était rougeau un peu coupe rosée de naissance. Mais c'est le verset dit, c'est parce qu'il a dit, c'est quoi ce rouge? Donne-moi du rouge là. Donc voilà les rois qui régnèrent dans la terre de Édom, donc de Ésaü, avant que ne règne un roi aux enfants d'Israël. Va imlor be'edom bela ben beor ve'shem iro dinava. Régna à Édom bela ben beor, le nom de sa ville c'est Dinava. Va yamot bela, mourut bela, va imlor tartav yovav ben zarach mi botzra. Mourut bela, régna à sa place Yovav ben Zerar de Botsra. Alors, Botsra, c'est quoi? C'est Bassora. Bassora en Irak. Or, Édom, la terre d'Édom, c'est la région de Elat. La région d'Elat, oui, n'est pas la terre d'Israël, comme chacun sait, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un qui fait son alia à Elat, il a loupé le coche. C'est pas Israël. Non, ce n'est pas l'Israël biblique, c'est la terre d'Ésaü. Elat, la région, Etzion Gaver, c'est le sud de ce coin-là, de le sud d'Israël, c'est la terre d'Ésaü.
Dimona, ça va encore?
Dimona, ça va. Voilà. Alors, donc ce verset est étonnant, puisque régna à sa part Yovav ben Zara de Botsra. Botsra, c'est Bassora. C'est pas le coin. Ok. Vayamot Yovav, vayimlor tartav chusham eretz atemani. Mourut Yovav, régna à sa place chusham de la terre de Temani. C'est où la terre de Temani? Du Yémen. C'est la mondialisation, là, hein, tout d'un coup. Pour l'époque, hein, du Yémen, Mésopotamie, ok. Vayamot Husham, vayimlor tarta Adad ben Badad, amake et Midian, bisde Moab et Shemiro Avit. Mourut Husham, régna à sa place Adad ben Badad, qui a frappé Midian dans le champ de Moab, le nom de sa ville c'est Avit. Vayamot Adad, vayimlor tarta Samla mimasreka. Mourut Adad, régna à sa place Samla de Masreka. Je ne sais pas où c'est Masreka. Vayamot Samla, vayimlor tartav Shaul merechovot anahar. Mourut Samla, régna à sa place Shaul de Rechovot anahar. Vayamot Shaul, vayimlor tartav Bal Hanan ben Achbor. Mourut Shaul, régna à sa place Bal Hanan, fils de Achbor. Vayamot bal Hanan ben Achbor, vaimlor tartav adar. Veshem iro paou, veshem ishto metavel bat matred bat mezav. Mourut bal Hanan ben Achbor, régna à sa place adar, le nom de sa ville c'est paou, le nom de sa femme c'est metavel bat matred, fille de mezav. Vélé shemot. Aloufé et Sav, Mémish Pechotav. Maintenant, voici le nom des princes de Esav, des chefs, c'est-à-dire, ça, il y a eu des rois, maintenant après il y a eu des chefs. Alors, il y a eu combien de rois? On peut compter Béla, Béla, Yovav, Husham, Hadad, Samla, Shaul, Balchanan, Adar. Ça fait 8, n'est-ce pas? Bien. Ensuite, ce sont, il y a eu 8 générations de rois. Ensuite, ce ne sont plus des rois, ce sont des chefs. Voici le nom des chefs de Esav selon leur famille, selon leurs endroits, dans leur nom, Alouf Timna. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Yetet, le chef Aolivama, le chef Aolivama, le chef Ela, Alouf Penan, Alouf Kena, Alouf Teman, Alouf Mifsa, Alouf Magdiel, Alouf Hiram, le chef de Magdiel, le chef de Hiram. Voilà les chefs de Edom, selon leur localisation, dans leur terre de possession, c'est Esav, père de Edom. Ok. Entre parenthèses, je vous ai fait la photocopie. Non, vous avez le texte, je n'ai pas fait la photocopie par contre avec le commentaire de Rashi. Je vous dis oralement le commentaire de Rashi pour ne pas faire trop de photocopies, que ça se perde un peu. Pas trop de texte. Rashi dit Magdiel. Magdiel. Que dit Rashi pour les connaisseurs ou connaisseuses? C'est Rome. Que Romulus et Rémus, d'après notre tradition, ce sont des descendants de Ésaü. Et Magdiel, c'est-à-dire, c'est que Dieu grandit, que Dieu a donné une puissance qui sort de la normale. Magdiel, que Dieu grandit, donne une puissance particulière.
Ce que vous dites dans la liste, c'est le jour où ils ont planté les premiers prix photos pour... Des Romulus et Rémus, c'est ça, c'est le jour
où Salomon a épousé la fille de Pharaon. Voilà. Ok. Alors, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, rapporte à la fin du Guide des Égarés, rapporte des passages où beaucoup de gens se disent on ne sait pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Pourquoi ce passage? On s'en fout, non? Je sais pas, moi je m'en fous. Je veux savoir les noms d'il y a 4000 ans, oui, 5000 ans, 5000, non, pas 5000 ans, parce que c'est après la sorte, une seconde, non, si, 5000 ans, ouais, au néolithique, les noms des rois d'une peuplade du Moyen-Orient, on s'en fout, je veux dire. Ouais. Alors, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, je vous donne la référence. C'est le 50e chapitre, la troisième partie du Guide des Égarés. Donc, troisième partie du Guide des Égarés, chapitre 50. Maïmonide dit, il y a des passages qui nous paraissent inutiles. Aucun intérêt. Mais il nous dit, sache que si tu approfondis, que tu mets les choses dans leur contexte, ces passages qui en première ou deuxième lecture paraissent absolument inintéressants sont absolument fondamentaux. Et ce passage en particulier, bien, ça c'est la traduction en hébreu, vous savez que le Guide des Égarés était écrit en arabe, mais il a été traduit tout de suite de son vivant par Rabbi Shmuel Im Timon de Narbonne, et ça c'est une traduction contemporaine de Rabbi Yosef Kapar. Voilà. Très belle traduction. la raison pour laquelle la Torah nous donne les détails des rois qui ont régné dans la terre de Édom. Ki miklal a mitzvot lo Torah la tête alera ishnochi asherlo achicha ou pour mettre en exergue un commandement fondamental de la Torah. Nous avons dans la Torah un commandement fondamental. C'est que lorsque on doit nommer un roi du peuple juif, qui est notre sujet, le roi, c'est un interdit que ce roi ne soit pas de souche juive. Dans la Torah, il y a des convertis. Ça existe, évidemment. C'est connu, on sait bien que nous ne sommes pas du tout une tradition qui court après les convertis, c'est un autre sujet. Pourquoi ? Ce n'est pas le sujet. En tout cas, ça existe. Mais le roi, c'est un interdit qu'il soit pas de sous-juif. Vous allez me dire, David, son arrière-grand-mère, était une prosélyte. Mais ok, elle s'est mariée avec Boaz, ses enfants ensuite sont été intégrés dans le peuple juif. Mais de parents directement convertis, c'est un interdit. Père ou mère converti, interdit de nommer roi. Et, c'est ce que dit la Torah, l'otora la tête alecha ishnori asherlo achicha ou, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. Quand bien même, un converti peut avoir une place importante dans le peuple juif. Mais pas comme roi, ni d'ailleurs comme dirigeant. Aucune, c'est-à-dire un converti n'a pas le droit, on n'a pas le droit, la communauté, de nommer à une place de responsabilité collective un converti.
Est-ce qu'un rab, c'est une place de responsabilité collective ?
Si les juges rabbiniques en droit civil ou droit pénal, il ne pourra pas. Pour cachère, pas cachère, il pourra.
Mais être, entre guillemets, responsable d'une communauté.
Non. Non, il ne pourra pas. Pourquoi ? On va voir. Il ne pourra pas.
Ah, d'accord.
Enfin, on va voir pourquoi. Pourquoi ? Ça, c'est du racisme, je veux dire. Ouais, c'est du racisme. Et pourquoi ? On va voir. Ve'elam lachim. Or, les rois que nous venons de voir ici, le passage que nous voyons ici, aucun, dit Maïmonide, n'est de souche ésaïque de Esav. C'est pour ça que le verset nous dit, un tel, il est de Bassora, l'autre, il est du Yémen, l'autre, il est du truc, l'autre, il est du machin, pour nous dire que Esaü, par contre, Esaü, les rois d'Ésaü ne sont pas du cru. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Comme dirait l'autre, Zoro est arrivé. Et alors? Oui. Pourquoi? Dit Maïmonide, en une phrase, il synthétise le sujet. Le fils Shekol chez Shalat Be'uma, toute personne qui a un pouvoir sur une nation, chez Enom Yerusa, qui n'est pas de la nation elle-même, Areu Pogea Ba Ezo Pegia Imdola Oktana, il a tendance à malmener ce peuple duquel il ne fait pas partie, en vérité, de manière familiale. Voilà, il fait en général, il malmène le peuple, il n'a pas pitié de ce peuple. Alors, on essaie un petit peu de décrypter. C'est-à-dire que Esav, et je pense que c'est fondamental dans la dimension de la civilisation d'Ésaü, qui est, dans notre tradition, considérée la civilisation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. On est dans l'exil de Rome. Quelle est la particularité d'Ésaü ? Moi, je déduis d'ici, c'est l'efficacité. L'efficacité. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si vous voulez, un peu comme ça, un peu hors piste, il y avait le Je ne connais pas bien les détails, mais d'après ce que j'ai compris, il y a des grandes entreprises en France. Prenons Renault, grande entreprise, qui est pas moderne, qui a une infrastructure extrêmement lourde, etc., qui a pris des plis au fil des années. Il faut moderniser toute cette entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut licencier, il faut casser, il faut... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va amener Carlos Ghosn, ouais, et qui n'est pas du cru, et il s'en fout complètement. Allez, on licencie, on ferme une usine, et machin, mille sur la paille, et machin, licenciement sauvage, mais vous comprenez, c'est en crise, il faut être compétitif. Si tu prenais un petit mec de Sochaux, ouais, un mec, je ne sais pas, Peugeot, c'est à Sochaux, ouais, Sochaux, enfin, c'est pas Renault, bah, Sochaux. Un mec de Flin, Renault, ouais, un mec de Flin, dont ses parents et ses grands-parents ont bossé dans les usines Renault, on dit, bah, tu sais, mon petit, on va fermer Flin. Ah non, c'est pas possible, toute ma famille a bossé ici. Ah ouais, mais tu sais, c'est la crise. Ouais, c'est la crise, il faut bien... On ne peut pas rester avec des structures des années 50, c'est pas possible. Maintenant, il faut être compétitif, il y a la mondialisation. Ah non, non, non. Alors, ça, c'est ESSAV. Le gouvernement chez ESSAV, pour que ça marche, Pour ça, on va chercher les compétences où elles se trouvent. À Bassora, au Yémen, à machin, au bidule, et ça marche à la trique. C'est le gouvernement qui marche à la trique. Ça, c'est Edom. C'est fondamentalement, et c'est ce que dit Maïmonide. C'est ça. C'est ça l'interdit de mettre quelqu'un qui n'est pas du cru. Quelqu'un qui n'est pas du cru, d'ailleurs, tu peux remarquer que David, son arrière-grand-mère, était une prosélyte, c'était Ruth. C'est pas qu'on veut une race, c'est pas qu'on veut la race pure, c'est pas le problème. C'est un problème, comment gérer, est-ce qu'on gère la population ou on vit avec la population? C'est quoi la place de quelqu'un qui a une responsabilité dans son peuple? Est-ce qu'il est là pour donner des coups de pied au CUL, excusez-moi l'expression, ou non, il vit avec le peuple, il essaie de faire quelque chose, ça va pas, plus ou moins, ça plus ou moins pas. Et c'est ça, alors, ça, Maïmonide dit, c'est très très intéressant, parce que Maïmonide, il y a un grand débat. Est-ce que Maïmonide était kabbaliste? Ça vous intéresse comme débat? Est-ce que... Sophie, ça... Non, ça nous... Ça n'empêchera pas de dormir, parce que je pense. Hein. Est-ce que Maïmonide était kabbaliste? Alors, en tout cas, c'est une question que beaucoup de commentateurs, au fil des siècles, se sont posées. Mais c'est très très important ou émouvant de voir que les thématiques que Maïmonide développe ont pratiquement systématiquement tous des grandes thématiques dans la tradition ésotérique de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah. Le Tikkuné Zohar, une partie de Zohar qui s'appelle Tikkuné Zohar, dit que ce passage que nous voulons dire, c'est la dimension, ce qui s'appelle en langage kabbaliste, Shvirat HaKelim, la destruction des réceptacles. Alors vous avez traduit tout à l'heure réceptacle, les vases, ouais.
Je pensais à ça justement,
oui. Cette expression, Shvirat HaKelim, la destruction des réceptacles. Moi je traduis réceptacle, on va voir, ouais. C'est la destruction des réceptacles. Et un des plus grands livres de Kabbalah du XXe siècle, c'est un livre qui s'appelle le Shem Shebo Vahlama, du grand-père du Rav Eliashiv actuel. Et il y a deux parties dans le Shem Shebo Vahlama, une énorme, tout le premier tome, c'est sur ce passage de la Torah, un énorme tome de Kabbalah, plus grand livre de Kabbalah qui a été écrit au XXe siècle, c'est sur ce passage qu'on vient d'écrire. C'est la dimension de, si vous voulez, Dieu a créé une création. J'ai vu ce matin avec des élèves, dans le Maharal de Prague, une phrase terrible que j'avais jamais vue, j'ai vu ce matin avec des élèves. Le Maharal dit, Dieu a créé une création bonne où il n'y a pas de mal. C'est rigolo. Vous demandez à n'importe qui, c'est une blague. C'est dans le monde, je ne sais pas, il y a quand même, apparemment, il y a du mal. C'est-à-dire que dans le... Et la dimension de cette création positive s'est détériorée, c'est Ésaü qui a détérioré. C'est où le passage parle de la détérioration fondamentale de la création. C'est notre passage. C'est forcer les situations, casser les situations. C'est casser la possibilité de vivre quelque chose. C'est le casser sa sensibilité, casser ce qu'on ressent, casser le voilà, c'est casser les choses. C'est briser les choses. Et où va commencer la réparation, la destruction du monde? Où il va y avoir, dans un langage que vous connaissez, je pense, cette expression, le tikkun, la construction, la réparation de la destruction du monde? Comment? C'est Shaoul. Il est caché dans les kélim. Il casse pas les kélim. Lui, ça le gêne, il ne se force pas. Il ressent pas le truc de se montrer comme ça, il se force pas. Il force pas sa pudeur. Il se force pas. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce qu'on pourrait imaginer que la Torah nous enjoint au contraire à se battre, à aller contre sa nature. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est très bizarre.
Surtout qu'on disait tout à l'heure que c'était une névrose.
Comment ?
On disait tout à l'heure que c'était pas juste sa nature, c'est un problème.
Mais c'est peut-être. Mais qui dit que c'est mal la névrose ? Qui a dit ça ? Je sais pas, mais peut-être que c'est bien. Qui dit que c'est mal ? C'est peut-être bien. C'est peut-être ce qu'on a de mieux en nous. Non, mais je suis sérieux, par contre. C'est peut-être très, très, très précieux. C'est peut-être très, très important. C'est peut-être... voilà. C'est peut-être... Voilà. Peut-être c'est très, 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 très important.
Juste une petite question. Dans le passage, il y a un des rois qui s'appelle Shaoul. C'est pas le même Shaoul.
C'est pas le même.
D'accord.
Oui, mais c'est surprenant.
C'est surprenant, c'est vrai. C'est surprenant. C'est surprenant. Alors, regardez, on va reprendre ces versets. Mais peut-être que, justement, regardez, j'y connais rien en psychanalyse, mais pas besoin d'avoir lu les œuvres complètes de Freud pour imaginer qu'est-ce que c'est une névrose. Mais, ou alors quelqu'un qui est mal à l'aise. Mais peut-être que, je ne veux pas trop insister sur ce concept que je ne connais pas bien, mais peut-être que, justement, justement, il est caché dans les kélim, il est caché dans le réceptacle, c'est-à-dire notre corps, cette relation au corps. Je vais vous rapporter encore quelque chose de sublime au sujet du roi Shaoul. Je n'ai pas pensé avant cet instant. Il y a un autre passage, vous allez comprendre un petit peu qui c'est Shaoul encore. Et qui est celui que Dieu considère et que le prophète dit, il n'y a pas de meilleur que lui dans le peuple juif. Ici, il est caché dans les Kélim. C'est-à-dire, Dieu nous donne un corps. De la même manière, c'est aussi un peuple, il y a un roi et un peuple. C'est aussi le peuple et va recevoir du roi. C'est aussi une relation comme un corps avec une pensée. Il y a une certaine corporalité aussi par rapport au peuple. La relation qu'on a par rapport à notre corps, la relation qu'on a quelqu'un qui a une responsabilité par rapport aux autres, c'est aussi comme une corporalité. Est-ce qu'il va forcer, est-ce qu'il va casser, ou est-ce qu'il va vivre avec? Est-ce qu'il va écouter ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il va dialoguer avec? C'est ça la problématique. Ici, Esav, c'est la civilisation dans laquelle on est. On casse. Pour ceux qui étaient au cours que nous avons fait mardi soir, à la yeshiva, on a vu, la Gemara dit que les sages disent que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant, il est auprès de sa maman. Et c'est fondamental qu'il reste de manière importante auprès de sa maman. Quand on a vu ça, ça a des incidences légales. Quand on a vu ça, moi je me suis dit, mais aujourd'hui, il faut que les femmes, elles travaillent. Un gosse, il a 2 mois, ouais, avant même qu'il naisse, dans quelle crèche je vais le mettre? C'est terrible. Bon, il faut bien vivre, il faut bien gagner sa croûte. Ok, il faut gagner sa croûte, on va gagner sa croûte, c'est pas un problème. Mais tout de suite mettre le gosse à la crèche, je sais pas, c'est... En faisant ça, tu casses, voilà, tu casses. Tout le temps tu casses. Ça c'est Ésaü, on est complètement là-dedans, on casse. Une sensibilité, on la casse. Les grosses stars, il y a des grosses stars aujourd'hui dans les grosses stars aujourd'hui. C'est prenons par exemple les 2 jeunes là-bas qui ont vendu l'application de partage de photos. Je sais pas, vous avez suivi là, 2 mecs là. Comment?
Instagram.
Ouais. Alors ça, c'est les superstars. Bon, il y a Steve Jobs, ouais, que Dieu ait son âme. Hein. C'était la superstar, des mecs qui bossent tout le temps, des mecs. J'ai lu un petit peu là sur les 2 petits jeunes là, qui ont fait cette application, que il y en a un, il dit sur l'autre, j'ai jamais vu quelqu'un qui travaille autant. C'est fou. C'est démolition. Ça, c'est la démolition. On démolit. Ça, on casse. Regardons les versets. Reprenons le verset. Et nous allons voir aussi le commentaire de Rashi. Et on va voir en quoi le commentaire de Rashi a aussi ouvre des ouvertures sur les dimensions kabbalistiques de la Kabbalah. Regardez le verset. Maintenant, nous allons apprécier le verset 31. Donc, page 61, le verset 31. « Ve'ele amelachim asher malchou be'eretz edom lifne melor meler lifne Israël. » Voilà les rois qui ont régné dans la terre de Edom avant que ne règne un roi aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire « avant que ne règne un roi chez les enfants d'Israël » Je vous rapporte le commentaire de Rashi. Je n'ai pas fait de photocopie. Hein. Je vous le lis, c'est pas long. Voilà les rois qui ont régné chez Ésaü avant que ne règne un roi aux enfants d'Israël. Rashi. Shmoné Ayou. Il y a eu, comme on vient de le voir, 8 rois. On a compté 8 rois. Ukenegdan, Emid Yaakov, Ubitel Malrut Esav Bemem. Et en contrepartie, Jacob, puisque c'est pas Achat Esav, c'est le vis-à-vis de Esaü et Jacob, en contrepartie, Jacob a fait se lever 8 rois de leur vivant. Esaü n'avait plus de pouvoir. Et qui est le premier roi qui a commencé à faire que Esaü n'avait plus de pouvoir, que la royauté d'Esaü s'est arrêtée? C'est Shaoul. Dès que Shaoul a été nommé, Esaü n'a plus le pouvoir. Il y a eu 8 rois. C'est les 8 rois jusqu'à... au verset combien? Là, la royauté d'Esaü s'est arrêtée. Il y a eu 8 rois, on a eu des chefs. Après, il y a eu des chefs, mais plus des rois. A commencé la chute d'Esaü, on pourrait dire donc le début de la construction, de la reconstruction, c'est où, lorsque... Où est-ce qu'il est? On ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Et c'est-à-dire, il ne se force pas. Il ne se casse pas. C'est spécial.
Vous voulez dire que ces 8 rois, ils ont tenu 900 ans?
Avant l'esclavage.
C'est entre Jacob. Entre Jacob, ça fait... il y a eu 210 ans depuis qu'ils sont arrivés en Égypte. 210 ans jusqu'à la sortie de... 210 et 400. 600. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire 8? Peut-être 8 dynasties, je ne sais pas. Hein. C'est vrai, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Alors c'est spécial. Alors, il y a un autre passage, plus loin. Alors, dans le livre de Samuel... Au livre de Samuel, il y a un passage extraordinaire. Peu après, Shaoul va fauter. Bon, on verra qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fauté. Et le prophète lui dit, Dieu se retire et veut plus que tu sois roi. Okay. Veut plus que tu sois roi et va nommer à ta place un meilleur que toi. À partir de ce moment-là, Shaoul va être obsédé. Qui c'est qui va prendre sa place? Ok. Bien. Et ça va être le petit David. Ok, c'est David. Et là, Shaoul, après, n'aura de cesse de vouloir assassiner David. Bon, c'est bizarre. On voit ici que c'est un petit mignon. Et après, il devient une furie. On verra ça. C'est pas le cœur du sujet. C'est pas le cœur du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? On verra ça plus tard. Bien. Et il y a des versets plus tard, je vais vous les lire, où Shaoul met une unité d'élite pour aller tuer David. Et David, petit à petit, il a des copains avec lui, il est dans la montagne, etc. Alors le verset dit comme ça. J'espère que je vais le trouver rapidement. Thank you. Voilà. Chapitre 24 dans les livres de Samuel. Donc il y a Shaoul, il a toute une armée pour aller chercher, David. Donc David est en danger. Il y a une loi que si quelqu'un te poursuit pour te tuer, tu as le droit de le tuer. C'est pas seulement tu as le droit de le tuer, tu dois le tuer. Même si toi tu es pacifiste et tout ça. Quelqu'un, ça s'appelle un rodef, quelqu'un te poursuit pour te tuer, tu dois le tuer en premier, pour sauver ta vie. Le verset dit comme ça, chapitre 24. Vaïkar Shaoul, Shloshet alafim ish barur, mikol Israël, vayeler le vakesh et David vanashav alpene tsure aye elim. Shaoul, donc c'est bien plus tard, prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et partit pour rechercher David et ses hommes dans les montagnes escarpées. Donc 3000 hommes d'élite, bahour, ça veut dire choisi, pour rattraper David et ses hommes. Vayavo el Gidrot Hatson. Alors, le scénario, il est trop extraordinaire. J'adore. Je cherche un producteur pour faire un film sur la suite. Et c'est... Si vous avez... Vayavo el Gidrot Hatson à la derer. Veshamara, Vayavo Shaul le aser et raglav. Ve David vanasha beyarkate ameara yoshvim. Il alla dans les cabanes, donc Shaul alla dans les cabanes de moutons sur le chemin, et là-bas il y avait une caverne. Donc, vous savez, dans les pays méditerranéens, on voit ça dans le midi, vous avez des bergeries. Et la bergerie, elle donne sur une caverne derrière. Derrière, c'est un peu une bergerie troglodyte, quoi, qui donne dans les rochers. Voilà. Donc il est avec ses 3000 hommes pour aller chercher David et ses hommes. Il y a une bergerie. Et là-bas, derrière la bergerie, il y a une caverne. Et Shaoul, il va derrière, au fond de la caverne. Pourquoi ? La serre est raglave pour libérer ses jambes. C'est quoi pour libérer ses jambes ? Quoi ?
Se reposer.
C'est une manière pudique pour dire pour faire ses besoins. Ouais, c'est vrai. Il y a tout dans la Torah. Alors, c'est faire ses besoins au judaïsme. C'est important. Hein ? Bon, pour faire ses besoins. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au fond de la caverne étaient planqués David et ses hommes. Vayomru, Anche David est là. Alors, il y a les hommes de David. Il est là, en train de faire ses besoins. Il avait peut-être un roman policier avec lui. Vayomru, Anche David est là. Il y a les hommes de David qui le disent. Iné Ayom Asher Amar Hashem Elecha Iné Anochi Noten Et Oyvecha Biyadecha Vasitalo Kasherita Benecha. Les hommes de David lui disent, mais c'est le jour de gloire est arrivé. Dieu t'avait promis qu'il te sauverait de tous tes ennemis. Ben voilà. Ben, il est là pour te tuer. On le tue. Et tranquille, là. Ouais, tranquille. Voilà, fais ce que tu veux. Vayomer la nasha, il dit à ses hommes. Khalilali me Hashem, et me sea davarazé, la doni le Meshiach Hashem, l'ishloar yadibo, ke Meshiach Hashem. Il dit que Dieu me préserve de porter, de faire cette chose-là, de porter la main sur celui que Dieu a oint. Car Dieu l'a oint. Voilà. Et jusqu'à la fin de sa vie, ses soldats, ils en voudront à David. Ils disent, salaud David, regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Quel pétrin. On a perdu après des hommes à cause de toi. On l'avait, cet homme-là. On l'avait. Il nous poursuivait. Tu devais le tuer. Et jusqu'à la fin, ses plus fidèles lieutenants le trahiront à cause de cette larme. Ça, ils n'ont pas digéré. Pourquoi ? Et le Talmud, dans le traité Brachot, demande pourquoi David, est-ce que David a fauté ou David n'a pas fauté? Oui, suspense. Est-ce que David a fauté, est-ce qu'il n'a pas fauté? Alors, la réponse se trouve dans le verset. Je vous lis le verset. Vayavo, Shaoul, Léasser, et Ragla. Le mot Léasser, alors c'est dommage, je n'ai pas de tableau, parce qu'il y a un tableau. Bon, je vous le lis, c'est fast-coche.
Non, rien n'est autrefois.
Regardez, c'est pas difficile. Il est allé Shaoul, Léasser, et Ragla. C'est quoi Léasser, et Ragla? La meute. Et. Samer Kaf. La racine du mot, c'est quoi? Il y a plusieurs racines qui peuvent se combiner. Léasser et Traglav. Comment? Oui, ça veut dire?
C'est loin.
Où tu vois ça? Non, c'est bien. Continue. Nesachim, les libations.
Nassir, c'est un prince.
Un prince, d'accord. Oui, c'est un prince.
Lassir
et Traglav, oui, c'est bien. Aussi, il y a le mot, les Nessachim, c'est des libations, c'est vider ses jambes. Hein? Le sens premier, c'est vider ses jambes. C'est une manière pudique de dire faire ses besoins. Mais les sages disent aussi, les Lassir et Traglav, c'est aussi du langage de Souka. Souka, c'est-à-dire cacher ses jambes. Souka, c'est ce qui surplombe. Souka, c'est la cabane de Soukhot, n'est-ce pas? Donc, Léasser et Traglav, il est allé chez, il avait caché ses jambes. Alors, le Talmud dit que David, il a été suffoqué. C'est un type, finalement, il a eu une pulsion mortifère, ce Shaoul. Il veut tuer David. Mais quand il va faire ses besoins, d'abord, quand tu vas à la guerre, je sais pas, moi j'étais jamais à la guerre, mais j'imagine, je sais pas, t'as les mecs, ils font caca sur le bord du chemin, je veux dire, tu vas à la guerre, je sais pas, si vous étiez scout, ou je sais pas, je parle pas les madames, les messieurs, bon, les madames, c'est les madames, mais les messieurs, ils font caca dans le coin, je veux dire, là, je veux dire, au bord, ça va, on est à la guerre, on va tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Shaoul, il va à la guerre, et il va faire ses besoins. Il s'éloigne, il va à un endroit qu'on ne voit pas, et là-bas, personne ne le voit, le Talmud dit, la serre est agréable, il cache ses jambes par pudeur. Il a dit, c'est pas un tueur, c'est pas un tueur. Je n'ai pas le droit de le tuer. À ce moment-là, c'est pas un tueur. Peut-être il est même un peu engoncé avec son corps, si vous voulez. Un peu, même les Rachamim disent, et ça c'est fondamental, il est même un peu féminin, si vous voulez. Il est un peu féminin. Il fait attention, il est pudique. Un mec il s'en fout. Bon, je suis à la guerre, je suis avec des potes. On a bu 3 bières chacun. Ça va, je veux dire, on s'en fout. Non, lui, et ça c'est Shaoul. Shaoul, il est un peu engoncé avec son corps. Il force pas la situation. Mais ça, c'est la conception. C'est la conception, je dirais, que Dieu nous montre de qu'est-ce que c'est pour lui un homme qui aura des responsabilités. C'est quelqu'un, il force pas. Il fera des erreurs, Shaoul fera des erreurs. C'est un être humain. Mais il force pas la situation. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et Rashi, vous voyez, relève, je relis encore le verset, on pourra peut-être s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Je relis ce verset, parce que ce verset, en première lecture, on ne voit pas tellement l'intérêt. Mais maintenant, on voit, c'est une vision, J'appelle ce cours philosophie politique. C'est vraiment la philosophie politique de la Torah. Comment la Torah considère la vie de pouvoir, comment se vit le pouvoir entre les hommes, entre les humains, qu'est-ce qu'on fait entre nous, qu'est-ce qu'on a fait, on force des situations, on casse, ou on avance, on a une difficulté, on vit avec, on essaie de trouver une solution, pas forcément en cassant les choses. Alexandre le Grand, vous savez, le nœud gordien, très intéressant, c'est fondamental. Vous connaissez le nœud gordien ? Oui. Ouais. C'était quoi, là, mademoiselle, le gordien ? Laurent ?
Ça remonte.
Comment ?
Ça remonte, hein.
Ah ouais ? À qui va ? Voilà. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Un truc, donc, comment tu dis, celui qui dénouera, qui arrivera à trouver une solution, il régnera, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il. Comment ? Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il tranche. Lac ! Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Mais on va voir, c'est pas si tranché que ça, c'est le cas de le dire. Dans la suite de ce que nous verrons la semaine prochaine, il y aura un autre aspect de la suite de Shaoul, dans la série. Voilà. Mais en tout cas, le début de Shaoul, ça c'est absolument fondamental. Je relis le verset. Voilà les rois, Veleam Lachim, Asher Malchou Beret Sedom, Lifne Melor Meler Livne Israël. Voilà les rois qui ont régné dans la terre d'Edom avant que ne règne un roi dans les enfants d'Israël. Et ce verset prophétique, qu'il y a eu des rois, ils ont régné, Ésaü a son pouvoir, mais quand est-ce que cesse le pouvoir de Ésaü avec, quand commence Shaoul ? Là, avec Shaoul, commence la reconstruction, la réparation de toutes ces destructions dans lesquelles nous sommes, et que Bezrat Hashem, il y a de nouveau, comment dire, il y a de nouveau la royauté, comme la Torah l'entend dans l'âme Israël, qu'il y a de nouveau, qu'on sache vraiment qu'est-ce que c'est la royauté, comme Dieu le conçoit, et pas cette royauté qui fait souffrir, en vérité, qui nous fait souffrir toute l'humanité.
C'est un verset qui légitime la revendication du peuple d'Israël d'avoir un roi, puisque c'était prophétisé en quelque sorte.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est pas simplement pour ressembler aux autres peuples, c'est écrit, on aura un roi.
Absolument. Donc c'est un grand débat. La plupart des décisionnaires disent que c'est une notion positive d'avoir un roi, pas comme Abraham. Mais on voit, c'est jamais tout comme ci ou tout comme ça. De ce verset, on voit une notion positive d'avoir
un roi. On peut pas dire d'avoir avec un verset pareil.
C'est vrai. On voit que là, positivement, il y a une notion positive d'une royauté. Mais cette royauté, c'est pas une royauté fantoche. C'est la royauté, qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, c'est l'expression, pour synthétiser, chaque fois qu'on parle de royauté dans la Torah, dans le Tanakh, ça parle toujours de pudeur. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la pudeur, je dirais, montre qu'on existe. Si vous voulez, nous, dans le fantasme d'Ésaü, ce serait, excusez-moi l'expression, une sexualité où il n'y aurait pas de pudeur. Ouais. On est désinhibé. Voilà. Voilà. Aucune inhibition. Voilà. Excusez-moi l'expression. On baise. Voilà. Il n'y a pas d'inhibition. Voilà. Mais le fait que la réalité ne soit pas comme ça montre en vérité que le monde existe. C'est ça ce que le roi fait comprendre, que ce monde existe. Le fait que non, que la pudeur, ou même de manière peut-être caricaturale, j'appelle ça la névrose, montre qu'en vérité, on n'est pas des machines et qu'on existe. Le fait que on ne fait pas n'importe quoi, que non, ça je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire, je ne le sens pas, je ne peux pas le faire. Et non, je n'aime pas faire ça, je ne le fais pas. Ah, oh, mais Mais si tu veux gagner ta vie, il faut que tu apprennes à faire ça. Tu as un stage de formation pour enlever tes inhibitions. Si tu veux vraiment être un manager, ouais, il faut que tu apprennes à passer outre certaines choses. Eh ben non. Mais voilà, c'est ça les enjeux. Ça, c'est les enjeux. Le fait que non, ça, je peux pas faire. Ça, je peux pas faire. Eh ben, ça montre que tu existes. Ça montre qu'on existe. Ça montre que le monde existe. Pas seulement que moi, j'existe. Que ce monde a un sens, ce monde existe. Donc, c'est ça le roi, le Meller, qui montre que cette réalité existe et qu'il y a un créateur. C'est ça le but du Meller. Plutôt que faire que... Allez, on, ça marche, en route. Voilà. Bien. Ok.
Excusez-moi, vous avez parlé, tu n'as pas fait David quand tu es jeune.
Oui.
Dans la phrase.
Oui.
Ça,
comment dans le, alors, l'Agmara, d'après mon souvenir, c'est Daf Samer Bet, Samer Gimel dans le traité Brachot, analyse longuement ce passage et dit qu'au moment où il faisait ses besoins, à ce moment-là, il n'était pas dans une dynamique de tuer David. Il était ailleurs, il était autre chose, il faisait ses besoins. Moi, j'ai le droit de tuer mon agresseur quand il vient m'agresser. Mais là, il est aux toilettes, excusez-moi l'expression. Bon, il est ailleurs, il n'est pas, pas dans un mouvement. Parce que c'est qu'un, quelqu'un, voilà, moi je n'ai de cesse que d'aller tuer. Bon, j'ai besoin de faire mes besoins, c'est le cas de le dire. Bon, je fais, puis je continue. Non, lui, c'est pas ça. Il prend son temps, il met son manteau. Il est dans la caverne, c'est l'obscurité, mais il est pudique.
Ça a arrêté David, mais il n'empêche
qu'il
lui a coupé un
pantalon. Comment? Il lui a coupé le manteau. Voilà. Mais ça par contre, c'était une faute.
Ben
ça par contre, c'était une faute. Voilà. Bien, ok. Merci.